votre région. RVE, il est 10h.
RVE, le journal national et international.
Bonjour à tous. Une minute de silence en hommage à Samuel Paty, c'est ce qui est prévu dans les établissements scolaires le 2 novembre. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a promis un cadre clair pour les enseignants à la rentrée. Une rentrée prévue en 3 temps pour les élèves du secondaire, avec d'abord une préparation des enseignants, ensuite une réaffirmation des principes de l'école et de la République, et enfin une minute de silence. Covid-19, la France bat un nouveau record. 45 422 personnes ont été testées positives en 24 heures. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 138 personnes sont mortes à cause du virus. Et le vaccin contre la grippe permettrait de se protéger contre le coronavirus. C'est ce que révèle une étude néerlandaise. Les chercheurs ont constaté que le personnel hospitalier vacciné l'an dernier contre la grippe avait 39% de chances en moins d'être contaminé par le virus. D'autres travaux indiquent le contraire, le vaccin contre la grippe rendrait plus sensible au coronavirus. La tension monte entre la France et la Turquie. Le président Erdogan invite Macron à se faire soigner pendant un discours télévisé. En cause, l'attitude du chef de l'État envers les musulmans en France et plus précisément la promesse de ne pas interdire les caricatures de Mahomet qu'a fait Emmanuel Macron, qui sont justement interdites dans la religion musulmane. Dans l'actualité internationale, une école primaire dans une zone anglophone attaqué hier par 9 assaillants au Cameroun. Au moins 8 enfants ont été tués et 12 ont été blessés. Selon les Nations Unies, ils ont été tués par des coups de feu et des attaques à la machette. Depuis plus de 3 ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans le pays. Nos vêtements pourront bientôt recharger nos téléphones. Des chercheurs ont annoncé avoir créé une substance qui peut servir de capteur solaire pour les vêtements. Ils ont réussi à incorporer des substances luminescentes dans un tissu de gel. Ils sont perméables à l'air et flexible, tout ce dont les vêtements ont besoin.
RVE, le journal local.
Bonjour, on commence ce flash en parlant de Rambouillet Territoire et notamment de la piscine des Molières aux Essarts-le-Roi qui, pendant les vacances de la Toussaint, a modifié ses horaires d'ouverture puisque du lundi au vendredi, elle est ouverte de 11h à 19h. Le samedi 31 octobre, de 12h à 13h50 et de 14h30 à 19h, l'établissement sera fermé le dimanche 1er novembre. En revanche, il sera ouvert au public le mercredi 11 novembre de 11h à 19h. Vous aurez plus d'informations en allant sur le site de Rambouillet Territoire, rt78.fr. Et puis, toujours pendant ces vacances de la Toussaint jusqu'au 31 octobre, l'Office de tourisme propose des visites guidées afin de faire découvrir le patrimoine des communes rurales du territoire. À chaque site, sa thématique, les peintres paysagistes à Cernay-la-Ville, Alfred Manessier, peintre non figuratif du XXe siècle à Émancé, le village médiéval à Rochefort-en-Yvelines, l'ancienne ligne de chemin de fer Paris-Chartres et les secrets du parc de l'Alleu à Saint-Arnaud-en-Yvelines, et enfin le réseau des étangs et rigoles à Vieille-Église-en-Yvelines. Autant de beaux villages à découvrir. Rendez-vous les mercredis et vendredis à 10h30 et samedi à 15h30. Plus d'informations auprès de l'Office de tourisme de Rambouillet Territoire au 01 34 83 21 21 01 34 83 21 21. Et lors de ses vacances scolaires, la Bergerie Nationale, qui est située dans le parc du château de Rambouillet, propose des animations qui sont toujours originales pour les enfants, notamment l'école des sorciers qui s'invite pendant les vacances de la Toussaint. Il vous faut donc préparer votre balai et votre plus beau chapeau de sorcier. Et jusqu'au dimanche 1er novembre, eh bien, à la Bergerie Nationale de Rambouillet, vous pouvez vous initier à l'école des sorciers à l'occasion des animations pour les vacances, intitulée C'est pas que sorcier. C'est Frédéric Grieux, responsable de la ferme pédagogique de la Bergerie Nationale, qui a préparé ces animations autour de la sorcellerie en s'inspirant largement du thème d'Harry Potter. Merci d'avoir suivi ce flash, poursuite des programmes sur RVE. RVE 103.7, il est 10h passé de presque 4 minutes, c'était le flash national suivi du flash local. On parle de la météo avant de retrouver le sport. Avec un ciel qui sera aujourd'hui nuageux, on aura des pluies éparses et 12 degrés. Dans l'après-midi, 13 degrés avec quelques nuages, quelques pluies et des rafales de vent à 40 km/h.
Chaque dimanche, 10h-11h sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, les bien 10h04, hein, nous sommes bien revenus à l'heure d'hiver, on va ce matin avoir une émission encore riche et diversifiée, on retrouvera Fabien avec peut-être une surprise à partir de 10h30 pour le magazine du Golf, on prolongera aussi ensuite un rendez-vous avec Denis Gallienne, hein, puisqu'on prendra à la mer avec notre ami Denis pour qui nous présentera et qui nous dira tout sur la prochaine édition du Vendée Globe, hein, qui partira le 8 novembre des Sables d'Olonne. Et puis ce matin, eh bien, Denis devait être avec nous, mais du coup, eh bien, c'est son ami et collègue de la section tennis de table de Saint-Arnoult qui a été dépêché. Oh, l'homme à tout faire, Guy Morinière. Salut Guy, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour plaisir, Philippe, hein, c'est avec plaisir que je reviens dans le studio de RVE.
Voilà, alors simplement, Guy il a été un petit peu rattrapé par le virus, rien de grave, hein, tout va bien, il est simplement chez lui. Hein,
en train alors de se reposer. C'est pas Guy qui est chez lui, c'est Christophe, notre nouveau président,
ouais, voilà, c'est ça.
Qui m'a délégué. D'ailleurs j'en profite, il doit être à l'écoute de RVE, et donc un petit coucou à Christophe.
Voilà, un petit coucou donc au nouveau président de la section au tennis de table de Saint-Arnoult. Alors on fera un petit peu on va parler un peu de votre entrée, de votre entame, hein. Ensuite malheureusement une activité qui a stoppé comme beaucoup d'activités suite aux conditions sanitaires.
Alors Philippe, l'activité n'est pas complètement stoppée.
Ah bah tant mieux, c'est bonne
nouvelle. C'est très difficile actuellement puisque on a dû donc arrêter toutes les activités pour adultes, que ce soit entraînement ou compétition. Mais subsistent quand même les activités pour les jeunes, puisque les gymnases sont fermés.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Les jeunes, eux, peuvent pratiquer le sport.
Les jeunes, oui. Les jeunes et également les personnes sous handicap ou sous traitement médical avec nécessité de faire du sport. Donc le gymnase et notre salle en particulier pour le tennis de table continue d'être ouverte pour les jeunes, que ce soit pour de l'entraînement, donc dès la reprise des cours après les vacances de la Toussaint, et donc les jeunes prendront le chemin de la salle pour les entraînements. Par exemple aussi, cette première semaine des vacances a eu lieu à un stage dédié aux jeunes.
Mmh. Ah bah c'est une bonne nouvelle, donc c'est bien, c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à l'oublier, mais donc les jeunes peuvent pratiquer le sport, hein, dans leurs associations, et puis y compris même dans les salles de sport, continuer à exercer une pratique sportive.
Tout à fait. Alors, avec néanmoins des contraintes sanitaires.
Bien sûr.
Le matériel est nettoyé très régulièrement. Dès qu'on sort de l'aire de jeu de tennis de table, obligation même de porter le masque. Donc, on fait bien attention. Il y a toujours un correspondant Covid dans la salle.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même avoir une pensée pour Bruno Martini, hein, l'ancien cadre de la DTN, ancien gardien de l'équipe de France de football, qu'on avait eu l'occasion très souvent de côtoyer à Clairefontaine. Il nous a quitté des suites d'une crise cardiaque à 58 ans, et on avait eu l'occasion notamment de le rencontrer ici lors de belles manifestations sportives sur Rambouillet, notamment lorsqu'on a organisé les trophées des sports en partenariat avec les nouvelles de Rambouillet. Donc on voulait naturellement lui dédier cette émission, lui qui s'en est allé beaucoup trop tôt, et puis on lui dédiera aussi le Tribune Foot de dimanche prochain. Alors donc tout s'était bien passé pour la rentrée. Il y a eu un forum des associations. Combien de personnes ont signé pour la saison 2020-2021?
Alors pour l'instant nous avons 60 personnes, ce qui est un petit peu en retrait par rapport à l'an dernier.
Ouais, c'est un peu en deçà des années précédentes.
Alors,
quand même.
À cette période de l'année, on sait qu'on va avoir néanmoins d'autres inscriptions. Donc on arrivera vraisemblablement autour de 70, ce qui fera quand même un déficit de 10 personnes par rapport à l'an dernier.
Comment vous l'expliquez ?
Alors on l'explique essentiellement par le Covid, les incertitudes. Ouais. Je connais des personnes, particulièrement je pense à un couple d'anciens, qui préfèrent se protéger et rester chez eux. Et puis après, les raisons peuvent bien sûr être autres. Hein. Mais donc, on ressent cette diminution de nombre de personnes. Alors, cela nous a amené à réduire la voilure en nombre d'équipes inscrites en championnat. Nous avions 5 équipes, et maintenant, nous n'avons plus que 4.
D'accord.
D'un autre côté, on aurait 5 équipes, ça nous poserait des problèmes d'organisation, parce que tout simplement, notre salle... si on devait accueillir trois équipes, enfin en même temps un vendredi soir, on ne pourrait pas respecter les règles sanitaires. Et ça, on y tient.
Ouais. Alors la tranche d'âge représentée.
La tranche d'âge au tennis de table.
Ouais, ouais, dans votre club.
Dans notre club, dans notre club, ça va de 6 à 75 ans.
Ah, c'est ça, faut le dire. Hein.
Voilà. Voilà. C'est le sport familial par excellence qui peut se pratiquer en compétition, mais en loisir, de tout jeune à beaucoup plus ancien, hommes, femmes, les grands, les petits, les maigres, les obèses, c'est pour tout le monde.
Il n'y a pas de profil type.
Il n'y a pas de profil type.
Alors, il y a tout se porter vers la compétition ou on peut en faire que pour le côté loisir?
Bien sûr, on peut en faire que pour le côté loisir. Nous avons d'ailleurs, et je tiens quand même à le souligner, un créneau le jeudi après-midi, qu'on appelle le créneau des anciens, mais en fait toute personne disponible, ancien, et je pense aussi à certaines femmes au foyer, peuvent venir le jeudi après-midi à 15h pratiquer le tennis de table. Et on voit, il y a un certain nombre de personnes qui sont là uniquement pour faire de l'exercice physique et aussi avoir un peu de relations sociales par ce sport qui est permis à tout le monde, même sans volonté de compétition.
Alors, n'hésitez pas, quand la vraie vie va revenir, adressez-vous donc à la section tennis de table de Saint-Arnoult. Il y a un contact, il y a un numéro.
Alors, le numéro, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, vous faites...
Il y a un site internet.
Il y a un site internet, tennis de table de Saint-Arnoult.
Donc, les jeunes qui arrivent, il y a beaucoup de filles parmi les jeunes qui arrivent.
Alors, parmi les jeunes qui arrivent, on a à peu près 25% de filles.
Ouais. Voilà. C'est bien.
En termes, alors c'est un petit peu moins que par le passé. Alors, il est vrai qu'on ne travaille plus beaucoup avec les écoles.
Mais alors, c'est ça qui est surprenant, on en parlait hors antenne. Vous ne travaillez plus comme par le passé avec les écoles.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Tout à fait. Alors, je dirais pour deux raisons. Une première raison qui est... Le fait que ce sport, le tennis de table, n'est pas forcément bien mis en avant par ses résultats sportifs au niveau international.
Oui, il manque une vraie
donc
icône,
ce sport
quoi.
Est un petit peu moins à la mode. Et puis d'autre part, donc lorsque nous travaillions avec les écoles, notre entraîneur était rémunéré par la mairie. Et il s'avère que à un moment donné, lorsque notre entraîneur est parti, une autre section de l'USSA a proposé son sport aux écoles gratuitement.
Ah oui.
Donc ça a été quand même un gros problème pour ce qui nous concerne, puisqu'on a été de ce fait un petit peu évincé du sport dans les écoles. Mais bon, on a bon espoir que petit à petit on reprenne.
Oui, que ça revienne, quoi.
Oui, tout à fait.
Parmi ceux qui viennent, ils viennent des villages avoisinants pratiquer ce sport, parce que il y a deux clubs de tennis de table, hein. Il y a Saint-Arnoult puis Rambouillet dans le coin, dans la région. Après, il y en a peut-être d'autres sur le Perret ou les Essarts, mais
alors, dans le sud, Yvelines, il y a certes, on pense instinctivement au club,
les deux plus importants,
donc de Rambouillet et de Saint-Arnoult, mais faut pas oublier le club d'Ably.
D'accord.
Et le club de Boinville-le-Gaillard.
D'accord, ça c'est, d'accord. Donc ça vous enlève un peu de monde quand même.
Ça nous enlève, un petit peu de monde. Mais est-ce que les personnes qui sont inscrites dans ces clubs seraient venues jusqu'à Saint-Arnoult? C'est pas sûr. Elles auraient peut-être pris un autre sport sur leur lieu d'habitation.
Mais ceux qui viennent, c'est des villages voisins aussi. C'est pas que de Saint-Arnoult, c'est Bullion, c'est Rochefort, c'est Bonnel. Bon, ils peuvent venir aussi sur Rambouillet.
Oui, mais alors là, par exemple pour Rochefort et pour Lombier, il y a la proximité immédiate. Ah, oui. Je pense aussi à Pontévrard, Sainte-Même. On a des gens de tous ces villages.
Quels sont vos rapports avec Rambouillet, Guy?
Alors,
je
nos rapports avec Rambouillet,
familiaux notamment.
Et ils sont très familiaux, très amicaux, et effectivement, puisque ma fille et mon gendre sont dans ce club, donc on entretient de très très bonnes relations avec ce club.
Alors vous l'avez dit, on peut faire du loisir, on peut faire de la compétition. C'est avant tout la vocation de votre club ou c'est en priorité la formation?
Alors notre priorité, et on le voit en ce moment, on se bat pour, c'est la formation des jeunes. On a tenu à avoir un entraîneur, en fait je dirais deux entraîneurs, un dédié au tout petit et donc le premier apprentissage du tennis de table, et un autre entraîneur dédié à la montée en puissance du jeu chez ces jeunes. Donc la priorité, et on le voit en ce moment avec la crise du Covid, c'est notre priorité, c'est de continuer à proposer du sport pour les jeunes.
et puis ensuite éventuellement s'ils sont un peu plus doués que les autres, les envoyer vers les clubs qui pourront les recevoir, comme Rambouillet par exemple, où on parlait des clubs de la Ville Nouvelle aussi.
Alors avant de les envoyer vers d'autres clubs, on n'en est pas là. Notre politique, c'est de proposer à ces jeunes de jouer avec les adultes les championnats adultes.
Bien sûr.
Et c'est le cas, je pense à quelques jeunes là actuellement qui sont dans mon équipe, par exemple, dans mon équipe de championnat départemental. Et donc, petit à petit, ils sont dans l'équipe 3, et puis après, ils passeront en équipe 2, et puis on leur souhaite aussi de passer en équipe première. Donc, on leur met petit à petit le pied à l'étrier, s'ils sont trop bons par rapport à l'équipe première, à ce moment-là, on pourra leur proposer d'aller dans d'autres clubs.
Il y a quelques cas qu'on connaît bien. On les a rencontrés puis interviewés.
Quelques cas, oui, bien sûr. Je pense par exemple à Romain Lorenz, qui lui fait une carrière internationale et qui maintenant joue en Suède.
Oui.
Voilà. Et fait des matchs aussi en championnat d'Allemagne.
Et puis aussi, ce qui fait plaisir, c'est que ça reste une famille, c'est-à-dire même ceux qui arrêtent la pratique, ils viennent vous voir quelques années après, ils continuent à rester en relation avec vous. Ça, je sais que ça vous touche énormément.
Alors, ça nous touche énormément. Alors, non seulement les jeunes, mais ce qui nous touche aussi, c'est un certain nombre de parents qui ont eu des jeunes, on va dire, à haut niveau, qui continuent à s'intéresser au club et à venir nous aider. Et là, ça fait du bien au moral.
Ah oui, bien sûr. Ça prouve que c'est une grande famille.
C'est une grande famille, tout à fait.
Bon, alors, il va falloir maintenant faire des compétitions. Elles ont été arrêtées, vos compétitions ?
Alors, les compétitions adultes sont arrêtées pour le moment.
Oui, comme partout.
Et on n'a pas de visibilité sur la façon dont ça va reprendre. Il est même question...
De les annuler, de les arrêter,
comme vous
de cette saison blanche.
On a un championnat en deux phases.
Oui.
La première phase jusqu'au mois de décembre, la deuxième phase de janvier à juin. Il est question, alors je ne sais pas ce qui va être décidé au niveau fédéral, mais il est question de faire cette première phase actuellement sur l'ensemble de l'année. Parce qu'on n'aura pas suffisamment de dates pour finir la première phase du championnat. Ça, c'est pour les championnats adultes. Mais en tout cas, ces zones de couvre-feu qui implique que les salles soient fermées pour les adultes, pour l'instant, il n'y a pas d'activité possible. Donc les championnats sont arrêtés, que ce soit à tous les niveaux, départemental, régional et national. Il en est de même pour les championnats individuel. Alors peut-être que dans certains départements ça peut continuer, ceux qui ne sont pas soumis au couvre-feu, ça je ne sais pas.
Il y a encore quelques départements
où on peut encore jouer en compétition.
Le Maine-et-Loire n'est pas au couvre-feu.
Tout à fait. Mais pour ce qui nous concerne en Île-de-France, là pour l'instant les compétitions sont arrêtées. Alors ce qui est plus gênant pour les clubs, c'est que les clubs, et je pense aussi aux nôtres, on fait des tas d'organisations pour alimenter notre budget. Typiquement, nous devions avoir le 11 novembre le championnat départemental vétéran que nous confie le comité. Eh bien, il est reporté. Il est reporté au mois de janvier, mais au mois de janvier, qu'en sera-t-il ?
Il y a de l'incertitude.
Voilà, on prévoit l'avenir, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ça, il s'agit donc des manifestations qu'on nous confie et qui nous permettent aussi de gagner un petit peu d'argent. Nous devions organiser un loto fin janvier. Il est clair que on utilisait la salle du Colombier à Saint-Arnoult, donc avec 250 places, mais vu les mesures d'éloignement des personnes, on ne pourrait accueillir que la moitié, donc 125 personnes. À ce moment-là, notre loto n'est pas rentable. En plus, est-ce que les personnes vont se déplacer ? On ne sait pas. Donc, vraisemblablement, ça va être annulé. C'est autant de bénéfices qui ne vont pas pouvoir rentrer dans notre budget. Tournoi du 1er mai.
Oui, alors, j'espère que d'ici là, le 1er mai...
On espère.
J'allais poser la question, j'espère que ça va s'arranger quand même.
On espère, mais on a sur cette manifestation également un grand point d'interrogation.
Alors vous parliez des compétitions, on peut faire des compétitions individuelles, on peut faire des compétitions aussi par équipe. Comment ça se passe ? On fait un choix ? On se spécialise ?
Après, tout dépend de l'investissement que la personne souhaite mettre dans sa pratique du tennis de table en compétition. Il y en a qui ne font que du championnat par équipe, et c'est la majorité. Et un certain nombre de personnes font aussi du championnat individuel. Donc ce sont quatre journées supplémentaires.
Faire les deux en même temps, c'est jouable, c'est possible.
Ah, tout à fait.
Ouais, ouais.
Je fais les deux, par exemple.
C'est bien. Donc ce qui prouve que le tennis de table, c'est un sport individuel qui est aussi collectif, hein, c'est important.
Tout à fait, tout à fait. Alors le sport, alors c'est un sport collectif, c'est plutôt une compétition par équipe.
Ouais.
C'est un ensemble de duels.
Ah oui, et oui.
D'accord. Mais bien sûr, la notion d'équipe existe.
Oui, il faut une cohésion d'équipe. Il faut savoir encourager, j'allais dire, son partenaire.
Hein. Encourager, ouais. Et coacher,
conseiller. Et supporter et coacher.
Le conseil, oui, est très important.
Bien sûr.
Le conseil est très important. Bon,
alors la compétition, ça coûte combien? Au niveau prix, licence, c'est le même tarif qu'un loisir?
Ah non.
Je m'en doutais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Non, non. Ouais. Alors là, je n'ai pas les tarifs sous la main.
Mais grosso modo, il y a une fourchette, non?
Alors, les tarifs pour les loisirs, c'est aux alentours de 100 euros. Et on se rapproche des 200 pour la pratique en compétition. Parce que qui dit compétition dit aussi accès à des entraînements avec entraîneur.
Oui. Et puis le matériel, il est à la charge du pratiquant, la raquette ou le jeu de raquette.
La raquette.
On est un peu fétichiste en plus, hein, on a sa raquette qui apporte des choses.
Chaque joueur a sa raquette.
Oui.
Tout simplement parce qu'une raquette de tennis de table se personnalise avec l'utilisation d'un bois plus ou moins offensif et de plaques qui correspondent à des jeux différents. Jeux offensifs, jeux de défense. Avec des picots ou sans picots, chacun a sa propre raquette. Et on observe qu'il est même très difficile de jouer à l'improviste avec une raquette complètement différente.
Ah oui. Hein?
Donc chacun a sa raquette, c'est à sa charge. Néanmoins, lorsqu'un jeune arrive, ou même un adulte, arrive dans notre club et n'a pas sa raquette, on a tout à fait les moyens de lui en prêter une pour qu'il se fasse une idée de la pratique du tennis de table.
Ça a beaucoup changé le matériel, ça a beaucoup évolué, Guy. Et si oui, en quoi ça a changé. Qu'est-ce qui a permis d'améliorer ses coûts?
Alors, il faut raisonner sur le long terme.
Ouais. Ça va plus vite, c'est plus rapide.
Ça va beaucoup plus vite parce que les mousses, sont... Ouais. Plus épaisse, dans une certaine mesure, et plus efficace. Et les revêtements permettent de mettre beaucoup plus d'effet. Alors, ça, c'est pour les meilleurs. Ils vont choisir des raquettes qui vont très vite et qui sont...
Combien ça va?
C'est de l'ordre de 200 km/h.
Oh là là. Non, mais on le sait, mais pour le grand public, ouais, c'est énorme.
Ça va très vite, c'est un jeu de réflexe.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais ces raquettes qui vont très vite... ne peuvent pas être mises entre toutes les mains. Un débutant, il ne pourra pas jouer raisonnablement avec une raquette dont les plaques sont faites pour de la vitesse.
Donc ça, d'où l'utilité d'avoir plusieurs jeux de raquettes.
Alors l'individu n'aura pas plusieurs jeux de raquettes, il aura sa raquette.
Ouais, mais il n'a pas un deuxième jeu au cas où quand même.
Il a une deuxième raquette
quand même.
Au cas où la première, parce que ça peut arriver aussi
ça
en compétition,
aussi que,
de tomber, de casser la raquette. À ce moment-là, il a le droit de changer de raquette. Mais elle va rester identique à la précédente, ou presque identique.
Et sur les classements individuels, il y a un classement type tennis ou golf aussi?
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait, c'est un classement qui commence à 500 points. Pour celui qui débute, et en fonction des résultats, victoires ou défaites par rapport à des joueurs qui ont plus de points ou moins de points, eh bien la personne va progresser petit à petit dans les classements. Elle va passer de 500 à 600 à 700 points avec tous les intermédiaires, ça va assez haut point près. Pour chaque compétition, il y a des compétitions dont le coefficient est plus important que d'autres. Les championnats individuels sont mieux cotés que les championnats par équipe. Et puis, on monte, on descend, et c'est la vie du tennis de table, on a ces classements. Donc on a, par exemple, 641 points, on dit qu'on est 6. Quelqu'un qui a 1230, il est 12. Et tout ça jusqu'à un moment donné où on est dans les 1000 meilleurs français et on rentre dans les classements, dans les numérotés. Donc à ce moment-là, les joueurs disent « je suis numéro 1000, je suis numéro 500, 100, 50 ou 12 », voilà.
Très bien, bah écoutez, c'est clair. On marque une pause musicale, une page de pub, et puis ensuite, on va aller voir notre ami Fabien du côté du golf, puisque c'est le rendez-vous mensuel avec ce magazine, et on a peut-être le matin une belle surprise à vous proposer.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 bis rue Châles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Châles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
RVE. RVE.
Vivez votre région.
Pour toujours et jamais.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors naturellement, hein, Guy, cette émission elle sera en podcast, vous pourrez la réécouter très 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 rapidement. Alors tout à l'heure, on parlait de Christophe, qui est le nouveau président. Hein,
tout à fait.
Depuis quand ?
Il est notre président depuis le 1er juillet.
D'accord, ok. C'est arrivé comment ? Est-ce que c'est une tradition chez vous de changer régulièrement ? Alors, on a dit, il a été malheureusement un peu rattrapé par le Covid, hein, pour toute. Donc, il a préféré rester chez lui, ce qui est très bien. Il était contact, hein, donc il n'a pas pris de risque. Il a fait un acte très citoyen, c'est super. Est-ce que c'était donc prévu qu'ils prennent le relais, ou est-ce que ça s'est fait comme ça ?
Alors, tout simplement, le président précédent, donc Guy Hersemel, donc qui est parti à la retraite et donc a souhaité être remplacé.
C'est pour ça qu'on était resté dans les Guillaumes. Hersemel
et donc c'était moi-même Guy pendant 5 ans également. Chaque président a aussi son rythme familial, son rythme professionnel, et à un moment donné, on souhaite en faire un petit peu moins s'investir au quotidien. Et je salue l'investissement très fort de Christophe, qui depuis le 1er juillet est à fond dans sa fonction de président, et bien sûr il découvre un certain nombre de choses, et les anciens présidents qui sont toujours au bureau, parce que ce changement de rôle ne fait pas que les précédents sont évincés, ça se fait dans la continuité. Et ça, c'est très important.
Oui, c'est important. On va en reparler. Comme prévu, on va aller au golf maintenant avec donc notre rendez-vous mensuel. Et puis, on va retrouver notre ami Fabien. Fabien, bonjour. Fabien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez pour le golf ? Notre ami Fabien, donc, qui se trouve à l'inauguration d'un nouveau golf. Alors, est-ce que Fabien nous entend ? On va régler ça du côté de la technique. Hein. On va nous rappeler tout à l'heure, et puis on va continuer. Voilà, donc travail d'équipe, ça c'est une des notions quand même qu'on perçoit très rapidement quand on arrive chez vous à Saint-Arnoult au tennis de table, et même d'une façon générale pour le sport en général, vous êtes très 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 liés quand même.
Alors, moi, je veux pas parler pour l'ensemble des sections sportives.
On s'est connu comme président très longtemps. Vous êtes, aujourd'hui, vous êtes un peu l'homme à tout faire. Vous venez donc remplacer un président qui peut pas venir à notre micro, c'est très bien.
Oui, et donc on a tout de suite mis en place une équipe, alors avec un chargé de communication qu'on entendra tout à l'heure, notre chargé de communication, c'est Denis, spécialiste de voile par ailleurs, et puis mise en place de toute une équipe au niveau trésorerie également, au niveau sportif. On a toujours notre ancien entraîneur Gérard Picret qui s'occupe de l'ensemble des activités sportives pour les jeunes et pour les adultes. Et puis on a dans le bureau toujours notre ancien président Fufu, qui est toujours là, prêt à donner le coup de main. Donc ça donne, comment dire, une idée de l'esprit d'équipe qu'il y a au sein de notre bureau. On espère que cela peut donner envie, non pas forcément pour rentrer, mais tout au moins pour venir dans cette section de tennis de table, qui par ses côtés amicaux et familiaux peut donner envie à des jeunes de venir.
Voilà, je crois qu'on a retrouvé notre ami Fabien. Est-ce que Fabien m'entend ?
Oui, voilà. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde.
Oui. Alors comment ça se passe, Fabien, donc auprès de l'inauguration du golf de Roissy ce matin ?
Alors je cache pas que c'est un peu humide.
Oui. Oui.
mais évidemment, non, ça se passe merveilleusement bien parce que c'est un golf qui sort de terre, c'est toujours un événement. Un golf qui sort de terre en France. Encore plus en région parisienne, c'était pas arrivé depuis longtemps, et c'est une vraie réussite. Ça se passe évidemment très bien, très très bien.
Alors, on va rappeler le programme de la journée, parce que c'est le but de votre société, hein, YouGolf, comme ça, de gérer et d'inaugurer donc de nouveaux golfs en France.
Exactement. Donc, on accueille les gens, il y a des initiations, et aujourd'hui, il y a une initiation avec Camille Lacour, hein, parce que Camille s'est passionnée pour le golf. Il y a 2 ans, il est tombé dedans et aujourd'hui il est fou dingue de golf, comme de nombreux d'ailleurs nombreux sportifs. Ensuite, il y a les gens qui viennent jouer qui sont déjà golfeurs, qui sont accueillis, on leur fait la visite des installations. Donc c'est plutôt une journée dynamique, évidemment particulière, mais excitante parce que c'est toujours hyper important de, voilà, de montrer un nouveau golf.
Et je crois que la semaine prochaine, il y a une autre inauguration, hein, je crois, la semaine prochaine.
Exactement.
Dans le sud de l'Essonne, je crois, où...
Exactement. Oui, mais bah, ça commence... Alors, il faut pas... Voilà, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, Philippe, et j'ai, moi, la chance, voilà, d'intervenir dans votre émission une fois par mois, et c'est formidable. Et on voit aujourd'hui que, bah, avec le Covid, alors j'ose pas dire grâce ou à cause, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le golf... A pris un tournant différent parce qu'il se pratique en plein air, parce que évidemment voilà les distances de sécurité sont facilement mises en place, donc ouais, il y a une vraie dynamique golfique, il y a un vrai essor, une vraie volonté de se mettre au golf depuis quelques mois,
et y compris donc chez les jeunes et chez les femmes aussi, hein, Fabien.
Alors exactement, et ça fait particulièrement plaisir parce que c'est vrai que les enfants, ben il en faut, hein, c'est aussi une des raisons pour laquelle on arrivera à fabriquer un champion ou une championne, hein, donc il faut évidemment que la base soit de plus en plus nombreuse, et puis les dames, et oui parce que il faut un maximum, il faut vraiment la parité, c'est hyper important, et nous sommes très heureux, voilà, bientôt fin octobre, de voir que depuis la sortie du confinement, il y a de plus en plus de jeunes et de femmes.
Oui. Alors donc, comment ça va se passer cette matinée? Donc Camille Lacour va s'exercer donc avec d'éventuels pratiquants et pratiquantes.
Exactement. Camille va donner des conseils. Hein. Là on est
en plus.
Ouais. Donc là on est sur le terrain. Donc vous avez des ateliers. Il y a un atelier parcours, hein, parce que ce qui est aussi très important à dire, c'est que aujourd'hui le golf, quand on vient s'initier, on s'initie sur le parcours. Le principe, quand vous allez démarrer le ski, vous démarrez tout de suite dans la neige, ou si vous allez apprendre à nager, on vous met pas sur une chaise, mais on vous met à l'eau tout de suite. Alors, évidemment, avec toutes les précautions d'usage. Mais voilà, donc Camille est avec des gens sur le parcours, et en train de leur prodiguer de précieux conseils et surtout de transmettre sa passion.
Très bien, c'est pour ça qu'on peut pas l'avoir là, il est en train de...
Exactement,
ah, c'est dommage. J'avais promis une belle surprise.
Je me rapproche de lui, si on a encore 30 secondes.
C'est très sympa en tout cas, bien sûr. Donc on va quand même rappeler que tiens, le mois prochain, hein, on recevra notre ami Régis Viateur, hein, et puis que vous serez effectivement...
L'excellent Régis Viateur.
Absolument, que vous serez donc dans nos studios pour faire une émission beaucoup plus générale sur le golf, voilà.
Exactement, donc là je suis plus très loin.
Oui.
Donc il est en plein, là il est en train de donner des conseils.
Ah ouais, ça va être difficile, mais...
Alors, je vais ouvrir le micro, il y a beaucoup de vent, mais on va peut-être l'écouter donner des conseils.
Ouais, voilà. Alors, est-ce que Camille Lacour est avec nous? Camille, bonjour.
Camille, en direct sur RVE.
Ah bah merci en tout cas Camille, hein, de passer quelques temps avec notre radio. Alors le golf pour vous c'est devenu une véritable passion, si je comprends?
Ah ouais, c'est pour moi c'est un sport super addictif, donc voilà, je suis tombé dedans il y a 2 ans. Mm-hmm. et j'essaye de pas y passer trop de temps parce que si je m'écoutais j'y serais tous les jours.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans ce sport? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, une fois leur carrière terminée, se mettent au golf.
Ce que j'ai adoré, c'est la concentration déjà. Je pense que il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de puissance pour jouer au golf, enfin, surtout pour débuter. C'est vraiment de la coordination et en fait, contrairement au sport de haut niveau que moi j'ai fait, pour envoyer la balle loin, il ne faut pas forcer, il faut être intelligent. Et c'est un concept qui est assez étrange en fait, au départ, où c'est vraiment tout en relâchement, essayer de rester vraiment concentré sur la balle. Et une fois que la balle elle part, c'est vraiment quelque chose d'addictif.
Ouais, donc vous y passez beaucoup de temps maintenant?
Bah, j'essaye de pas y passer trop de temps, mais voilà, j'essaye d'y passer une demi-journée par semaine. C'est vraiment pour moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi dans la vie. Ça me détend. C'est mon petit moment où je me retrouve tout seul avec moi-même, et quand je rentre après chez moi, je sais exactement où j'en suis. Voilà, ça remplace un peu les footings que je faisais avant, donc j'essaye d'en faire toujours, mais c'est vrai que je préfère aller jouer au golf quand même.
D'accord. Pour finir, hein, après je vais vous laisser libre, c'est quoi la vie de Camille Lacour aujourd'hui? Il y a d'autres projets dans le domaine du sport?
Ouais, aujourd'hui je suis conférencier en entreprise, donc avec la Covid, mais c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est vrai qu'en fin de carrière, j'avais passé un diplôme de conférencier pour faire ça, et là aujourd'hui, j'ai envie de monter une boîte un petit peu autour de conférences, mais avec moins de personnes et autour du golf aussi. Donc c'est dans les starting blocks. Je suis en train d'essayer de monter ça, essayer de faire un peu des after work autour du golf, parce que je pense que c'est un sport qui gagne à être connu, avec beaucoup de concentration et beaucoup de parallèles avec le monde de l'entreprise aussi sur l'approche. C'est-à-dire que si on pense aux résultats, à vouloir envoyer la balle très loin, on n'y arrivera pas. Il faut d'abord penser à toutes les étapes possibles pour y arriver. Et là,
très bien, merci en tout cas. Merci Camille d'avoir été disponible. Et puis on va remercier Fabien aussi pour son mag.
Avec plaisir, Philippe.
Courage. Hein. Merci beaucoup, Fabien.
Merci.
Et rendez-vous le mois prochain. Et puis bonne inauguration. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Au revoir, Philippe. Au revoir à tous.
Merci en tout cas. Voilà, Guy. Eh ben, c'est ça, le direct radio. Donc, on a eu Camille Lacour qui donc nous a parlé de sa passion pour le golf. Ça me rappelle que il y avait eu à Saint-Arnoult Purcard qui était venu. Hein, il y a un petit bout de temps. Hein.
Oh, il y a un petit Vincent bout Purcard. De temps, mais il n'est pas venu qu'une seule fois.
Oui, Saint-Arnoult. Et puis on a vu sur Rambouillet aussi Patrick Chila qui était venu avec Jean-Philippe Gassien, qu'on a eu l'occasion de rencontrer assez souvent par la suite, y compris à Lima pour donc eh bien l'obtention des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça aussi, ça plaît.
Ah oui,
c'est du tennis de table exhibition, mais ça plaît, quoi.
Ça plaît, d'autant plus qu'il y a généralement une bonne dose d'humour. En plus de la grande technique nécessaire pour ce genre de spectacle.
Mmh. Alors justement, le tennis de table, on parlait tout à l'heure que c'était un sport qui était ouvert à toutes et tous. Il n'y a pas de profil type, hein, qu'on soit petit, vous l'aviez dit, un peu enrobé, grand. Il n'y a pas d'archétype de la pongiste ou du pongiste.
Ben, on le voit bien, de toute façon, que ce sport est très familial. C'est dans beaucoup de réunions de famille, réunions de vacances, dans les campings. Il y a forcément une table de ping-pong.
Et tout le monde
se met autour de la table.
Voilà, c'est ça.
Philippe, vous me signalez le ping-pong. Alors, ping-pong a une connotation loisir.
Voilà.
Le vrai nom du sport, c'est le tennis de table. Néanmoins, lorsque des pratiquants en compétition de tennis de table parlent de leur sport, ils ne parlent pas de ping-pong, ils parlent de ping.
Eh oui.
Quelqu'un qui dit « je fais du ping », c'est quelqu'un qui en pratique très régulièrement, compétition.
Très bien. Bon, écoutez, on va avoir notre ami donc Denis au téléphone. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Non, il est là, bien. Denis. Oui, Denis, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, bonjour Guy.
Bon, ça va, ça se passe bien?
Confiné.
Parce que je l'ai dit, hein, le président a été qu'à contact, donc il a pris le risque. Hein, enfin, il a pris, il a pas voulu prendre le risque, de venir. Notre ami Christophe. Et puis vous aussi, malheureusement, vous avez été rattrapé par Covid, mais pas de mal, hein. Tout va bien.
Non.
Rassure tout le monde.
C'est des symptômes de gros rhume. C'est tout ce qui me touche. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire très brillamment notre ami Guy?
Juste une petite chose, parce que c'est la seule chose, une table de ping-pong, que vont pas emmener les skippers pendant leur tour du monde.
C'est pas
donc ils ne pourront pas pratiquer le tennis de table, et il faudrait qu'on y pense quand même pour les équiper la prochaine fois, peut-être.
Oui, et puis j'y pensais ce matin, vous pouvez prendre la mer, le virus, il va pas vous rattraper, hein.
Les skippers vont quand même être confinés pendant 14 jours. Hein,
Il y a la mer, il y a le vent.
Il faut pas qu'ils partent malades. Hein. Il faut pas que ça se déclenche en mer. Hein.
Bien sûr.
C'est pour ça que le 31
octobre... Ils vont être tout seuls, il n'y a pas de raison, là.
mais avant de partir, qu'il faut respecter un délai. Donc le 31 octobre, ils sont testés. Ouais. Et ensuite, ils sont strictement confinés. Donc avant de partir, ils vont rester un peu plus d'une semaine.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit malade au contact d'un autre, quoi, avant de prendre la mer.
Il ne faut pas qu'il soit malade au large, hein, parce que en fonction des problématiques de cette maladie, une intervention sanitaire, on est à l'autre bout de l'Atlantique avec ce virus, va falloir faire une intervention, peut-être aller les chercher, éviter tout ça, quoi.
Oui, mais s'ils sont négatifs au moment où ils prennent le bateau, ils risquent plus grand-chose après en mer.
Une fois qu'ils sont partis, ils n'ont plus de contact, hein. ça c'est clair, ça c'est sûr.
Mmh. Voilà. Bon, comment se présente ce Vendée Globe, hein? J'ai failli dire Vendée Globe Challenge, mais on dit Vendée Globe maintenant, hein, Denis.
Ah oui, oui, Vendée Globe Challenge, c'est fini depuis longtemps. Ouais. C'était à l'époque de la création, c'était un autre monde. Ouais. Maintenant, c'est une grosse armada, c'est une grosse organisation, puisque il y a 4 ans, c'est une course qui se fait tous les 4 ans. Il y avait plus de 2 millions de visiteurs sur le Sable d'Olonne pour le Vendée Globe. Donc là, cette année, ça va être beaucoup moindre, parce qu'il y a des restrictions partout. Que ce soit déjà en ce moment, pour aller voir les bateaux, il faut prendre rendez-vous pour aller sur les pontons. Je regardais ce matin, il n'y a pas de date disponible pour aller sur les pontons avant 10 jours, je crois.
Ouais. Bah, j'imagine nos confrères journalistes, hein, ça va être compliqué pour eux, exactement comme sur le dernier Tour de France. Hein. Ça va être un peu compliqué.
Ouais,
oui. Hein.
Ouais. Ça, c'est sûr. Donc c'est une problématique aujourd'hui. Et puis, les informations pour le jour du départ, c'est qu'ils vont limiter les accès au chenal, sur tout le long du chenal, à 15 000 personnes. C'est-à-dire que c'est 3 fois moins, ou 4, 5 fois moins qu'il y a 4 ans. Donc c'est avec terrible, quoi.
Alors vous, Denis, l'homme du tennis de table, hein, comment vous avez eu cette passion de la voile? Bon, vous êtes donc sur Saint-Arnoux en Yvelines, mais je crois que vous êtes vendéen d'adoption. C'est comme ça que la passion est venue?
Ah, moi, je suis vendéen de cœur et sablé de cœur. Donc, moi, le premier Vendée Globe, puisqu'on fête les 30 ans, hein, du Vendée Globe, c'est les 30 ans, en 89, moi, je les ai vus arriver. Je les ai pas vus partir, mais je les ai vus revenir. Depuis 89, je suis cette course de mes relations avec cette ville des Sables d'Olonne.
Oui, ce qui nous avait valu d'avoir Jean Le Cam. Hein. On a eu Camille Lacour tout à l'heure. On a vu, on se rappelle aussi Jean Le Cam. Hein.
Exactement.
Il y a quelques années après un précédent Vendée.
Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, exactement. C'était le dernier Vendée Globe.
Alors, comment je présente donc cette édition 2020, en dehors donc des problèmes sanitaires, sur le plan sportif, quels vont être ceux qui vont probablement se jouer la victoire finale?
Alors, ça va être c'est une course et c'est un sport qui est de plus en plus technologique, technique, ouais. Avec des nouveaux bateaux qui ont fait leur apparition. Ils seront 8 qui ont été créés depuis le dernier Vendée Globe, dans les 4 dernières années, qui ont été créés spécialement pour ce Vendée Globe, et c'est ces 8-là qui vont, à mon avis, concourir pour la victoire. Avec toujours ces histoires de foils, puisque les nouvelles technologies de foils qui sont intégrées maintenant au bateau, dont certains font une longueur de 7 mètres, hein. Donc c'est plus des petits appendices, 7 mètres, ça leur permet de faire décoller le bateau. Donc on parle maintenant effectivement de bateaux au-dessus de l'eau, en particulier pour tous ces 8 bateaux qui vont arriver là, qui avec des gens qui sont bien connus, hein, comme Alex Thompson qui a refait complètement son bateau, des gens comme Jérémy Bayou, c'est tous ces gens-là vont concourir pour la victoire.
Oui, et puis bah ils partent, il faut le dire, sur la mer pendant 3 mois. Hein. Ils vont arriver, les premiers vont arriver en février à peu près.
Alors, janvier, début février. Le dernier record est de 74 jours.
Oui.
Le dernier record de 74 jours. Et tous les 4 ans, ils battent le record à peu près de 4 à 6 jours. Donc on va dépasser, je pense, descendre en dessous la barre des 70 jours.
Ouais, c'est phénoménal quand même. Phénoménal.
Alors que le premier Vendée Globe, c'était quand même 109 jours. Donc ouais, on voit le. Donc ce que disait Jean Le Cam la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, ils font le Vendée Globe à la vitesse d'un Solex. Donc 30 km/h avec des pointes à 50 km/h.
Oui, non, c'est. Et les derniers, eux, mettent à peu près 4-5 mois quand même, hein.
Ah oui, oui, alors parce que tout ça, c'est des bateaux d'ancienne génération, hein.
Oui.
Après, donc on va avoir deux catégories de bateaux avec foils, ceux qui sont les nouveaux, les 8, ceux qui ont été créés pour la course il y a 4 ans, et puis ceux qui partent sans cet appendice qui va l'aider. Donc on retrouve par exemple Jean Le Cam qui repart encore avec un bateau qui était le vainqueur de 2008.
Mmh.
Donc qui était le bateau de Michel Dejoyau en 2008. Et donc, lui, il n'a pas d'appendice et il va se battre pour descendre en dessous les 80 jours, puisqu'il avait fait l'année dernière 81 jours, je crois. Enfin, il y a 4 ans, 81 jours.
Mmh.
Donc voilà un petit peu le. Ils vont rajouter. Ceux qui n'ont pas la solution derrière vont arriver à peu près 10 jours après le vainqueur. Et ceux qui ont encore des bateaux plus anciens, et ben, ils vont arriver avec 20 jours d'écart à peu près avec le vainqueur.
puis on va rappeler pour le grand public, nous on le sait, mais pour le grand public, c'est une course sans escale et sans assistance. C'est le must, hein, c'est la référence, malgré d'autres belles épreuves comme la Route du Rhum, mais c'est la référence, hein, le Vendée.
Alors aujourd'hui, c'est la, ouais. c'est la, la référence en termes de distance, en termes ouais. De temps sur le bateau sans assistance, puisqu'ils ont le droit de s'arrêter, de mouiller par exemple quelque part, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de l'aide quelconque. Ils doivent se débrouiller par tous les moyens. Donc, une des grosses problématiques aujourd'hui, qui est une problématique sanitaire, en dehors de l'aspect Covid, c'est l'aspect sanitaire et c'est les accidents, puisque ils ont, pour cette édition, ils ont mis une zone d'exclusion arctique qui n'est plus sous forme de porte, mais qui est sous forme de ligne entre le 45e parallèle sud et le 68e. Donc, en fonction de l'endroit où on va se trouver au niveau de l'Antarctique, de l'Arctique, je veux dire, on aura le droit de descendre ou on va être obligé de remonter pour éviter les glaces.
Oui. Alors, on se rappelle aussi de certaines belles histoires hein, de dépannage et de secours, Denis, dans le passé.
Ah oui, oui, la plus grosse, ça a été le renversement. Enfin, il y a eu des gens qui ont disparu, hein, ça c'est clair,
malheureusement,
la course. Et puis, il y a eu des accidents notables avec Jean-Pierre Dick qui se casse le fémur au large de l'Australie, donc il ne pouvait plus bouger. D'ailleurs, ça me fait petite parenthèse, aujourd'hui, les skippers qui vont partir, certains emmènent des casques, hein.
Ah ouais.
Donc pour éviter les chocs. Mm-hmm. Donc dans leur sac, maintenant, ils mettent des protections pour pouvoir faire ce sport à cette vitesse-là. Mmh. Et puis le gros épisode dont tout le monde se souvient peut-être, c'est celui de Jean Lécam qui s'était retourné au large du Cap Horn et qui avait été sauvé par Vincent Rioux qui se trouvait à quelques distances derrière lui et qui a rattrapé l'épave et qui a récupéré Jean Lécam. Mmh. Donc tout ça c'est des épisodes effectivement, donc c'est pas un petit sport, hein. Ils jouent avec leur vie quand même. Hein.
Absolument, de véritables sportifs qui suscitent beaucoup d'admiration. Donc le départ c'est dans 15 jours, à 13h02 exactement.
Exactement,
hein,
ça va être lancé par le directeur du Tour de France d'ailleurs.
Ah, Christian Prudhomme.
C'est ouais. Christian Prudhomme qui va faire le départ mmh. cette année. Mmh. Et le départ se fera le long de la plage, puisqu'ils ont modifié le départ pour pouvoir faire passer les bateaux le long de la plage, puisqu'il n'y aura plus personne, il n'y aura pas grand monde sur le chenal. Donc pour augmenter le nombre de spectateurs, ils font passer devant la plage.
Très bien. Denis, merci. Juste un petit mot à votre ami Guy Morinière qui est en studio et qui a écouté ça avec beaucoup, beaucoup de passion, hein. Comme le golf d'ailleurs.
Ah, tout à fait. Extrêmement intéressant, hein. La voile, bon, c'est un domaine que je ne connais pas du tout.
Il va tout vous raconter.
D'autant plus que j'ai gravement le mal de mer dès que je monte sur un engin qui flotte. Mais donc c'est très, très passionnant et je pense qu'on aura, Denis, l'occasion d'en reparler ensemble de ce fameux Vendée Globe.
Ah ben, j'espère bien, ça va nous faire vivre là effectivement jusqu'au mois de février, donc donc on a largement le temps d'en reparler et de suivre cette course, ce qui va être passionnant.
Voilà, puis Denis sera notre consultant hein, pendant cette épreuve. Dernier petit mot, les marins, ils peuvent avoir le mal de mer, Denis?
Alors les témoignages, c'est en fonction de la situation, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont malades, qui ont mal de mer quand ils sont sur un petit bateau qui est quasiment à l'arrêt pour pêcher par exemple. Voilà. Mais ceux qui prennent là le bateau à cette vitesse-là et qui font le tour de la planète, là, ils n'ont pas le temps d'avoir le mal de mer.
Très bien. Merci, Denis. On écoute la pub, la musique, et on va conclure cette émission. Merci, puis à très bientôt. Hein. Salut, merci.
Bonne journée. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
RVE. RVE. Vivez votre région.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça. Ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça. Ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me
passer de toi.
Région avec RVE.
Voilà, bah après ce rendez-vous très très chargé ce matin entre le golf et notamment notre ami donc Camille Lacour et puis notre ami Denis Gallienne qui nous a parlé du prochain Vendée. On va finir avec Guy Morinière. Guy, est-ce qu'il y a une tenue réglementaire en tennis de table?
Ah bah bien sûr, les règles du jeu donc ouais. Obligent le joueur à avoir un short, à avoir
quelle que soit la couleur, ça c'est pas un problème.
Quelle que soit la couleur pour le short, par contre, pour le t-shirt ou le polo, il ne doit pas être de couleur blanche, tout d'accord, simplement, parce d'accord. que la balle est blanche et il faut garder les contrastes de la balle. Et puis aussi, un petit détail qui m'a toujours amusé quand j'ai appris des règles du jeu, mais c'est toujours inscrit, il est nécessaire d'avoir des chaussettes, c'est une obligation.
Ah d'accord, sinon on peut vous refuser l'entrée sur le...
Un arbitre qui fait respecter les règles peut interdire l'entrée de l'aire de jeu à un joueur qui n'a pas ses chaussettes.
Et vous parlez de l'arbitrage, il est très souvent contesté en tennis de table où il y a des évidences finalement.
Alors, l'arbitrage en tennis de table est assez peu contesté.
Oui, parce que ça a très
néanmoins,
vite en plus,
il y a un moment de jeu qui est le service, où là, il peut y avoir beaucoup de contestations. Ces contestations tiennent à ce que la règle dit que la balle doit toujours être vue par l'adversaire entre le moment où elle quitte la paume de la main et le moment où elle est frappée par la raquette. Ça doit toujours être vu. Il y a certains joueurs qui arrivent à cacher ou presque cacher. Et il y a ce moment où l'arbitre est pas forcément bien placé pour apprécier ce moment. Et donc, des joueurs se plaignent. C'est le seul moment où il peut y avoir une contestation.
Voilà. Et puis, pour finir, très brièvement, le mental, c'est hyper important dans ce sport.
Il faut se battre jusqu'au bout.
Ouais, ouais. Hein, c'est souvent ça qui fait la différence.
Alors, non seulement dans l'échange,
ouais.
Hein, mais également en fin de partie, on même mené 10 à 0, on est capable de gagner 12-10. Il faut se battre jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est aussi une règle de vie.
Absolument. Merci en tout cas. Puis il doit y avoir toujours un peu d'intox aussi quand on rentre autour de la table, certainement.
Tout à fait.
Merci Guy d'être venu. Bon, hein, et puis merci aussi à Denis Gallienne. Merci à Fabien puis à Camille Lacour. On a une émission bien remplie ce matin. N'oubliez pas, nous sommes revenus donc à l'heure d'hiver. Et puis on vous laisse maintenant avec la suite de nos programmes. Merci à Guillaume, hein, il est beaucoup travaillé ce matin. Voilà. Mais ça s'est bien passé comme d'habitude. Bon dimanche à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour Tribune Foot. Salut.
Il est 11h.
RVE, le journal national et international.
Bonjour à tous. Une minute de silence en hommage à Samuel Paty, c'est ce qui est prévu dans les établissements scolaires le 2 novembre. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a promis un cadre clair pour les enseignants à la rentrée. Une rentrée prévue en 3 temps pour les élèves du secondaire, avec d'abord une préparation des enseignants, ensuite une réaffirmation des principes de l'école et de la République, et enfin une minute de silence. Covid-19, la France bat un nouveau record. 45 422 personnes ont été testées positives en 24 heures. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 138 personnes sont mortes à cause du virus. Et le vaccin contre la grippe permettrait de se protéger contre le coronavirus.